Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, merci d'écouter Aligre FM sur le 93.1. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque samedi dans une nouvelle édition de Version originale. Notre émission de ce soir porte sur la migration, la réalité des personnes migrantes qui débarquent dans le port de Catane, à l'est de la Sicile. Catane, où des milliers de personnes en danger arrivent, accompagnées des corps de celles qui n'ont pas survécu à la traversée. C'est le sujet du livre « Relier les rives » de Carolina Kobelinski et Filippo Furi, publié aux éditions La Découverte, « Relier les rives » sur les traces des morts en Méditerranée. Ce livre raconte l'histoire d'une initiative mise en place par quelques personnes pour redonner un nom et une famille à des personnes migrantes inconnues, mortes durant la traversée de la Méditerranée. Oui, le sujet que nous abordons ce soir n'est pas réjouissant, mais il n'est pas morbide pour autant, car il s'agit d'actions concrètes d'hommes et de femmes qui ouvrent une brèche pour faire entrer la lumière dans un espace et un moment très sombre. C'est l'histoire d'hommes et de femmes qui luttent pour empêcher la dégradation de la mort, qui font en sorte de garder toute leur dignité au corps d'hommes et de femmes migrants morts. Je reçois donc Filippo Furi. Bonsoir Filippo Furi.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM, Filippo. Vous êtes donc anthropologue, membre de l'Institut Convergence Migration et membre du réseau Migre Europe. Et avec nous donc au téléphone, Carolina Kobelinski, avec qui vous avez écrit ce livre. Bonsoir Carolina Kobelinski.
Bonsoir.
Bienvenue à vous aussi à l'antenne d'Aligre FM. Vous êtes donc anthropologue, chargé de recherche au CNRS et membre du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à l'université Paris-Nanterre. Alors, la question vous concerne tous les deux, bien sûr, mais comme vous êtes loin de nous, Carolina Kobelinski, je vous propose de répondre en premier. Dans le premier chapitre du livre intitulé « Naufrage », vous évoquez le naufrage d'un chalutier en route pour l'Italie en provenance de la Libye. Ce naufrage a eu lieu dans la nuit du 18 au 19 avril 2015 et seules 28 personnes y ont survécu. Vous soulignez que cette catastrophe marque un tournant dans l'activité de la Croix-Rouge de Catane. Dites-nous de quelle manière est-ce un tournant? Qu'est-ce qui différencie l'après de l'avant cet accident pour la Croix-Rouge?
Il se trouve que juste après le naufrage du 18 avril, les téléphones du comité local de la Croix-Rouge de Catane ont commencé à sonner, et cela sans cesse. Et à chaque fois, c'était des personnes qui voulaient avoir des nouvelles d'un fils, d'une sœur, d'un frère, qui était probablement dans le chalutier naufragé. On savait que Catane pouvait éventuellement être un port d'arrivée pour les survivants. Et donc, de façon relativement spontanée, pour ainsi dire, les familles ont commencé à appeler. Et donc, les bénévoles de la Croix-Rouge ont reçu des appels sans trop savoir quoi faire, mais en prenant soin de prendre note de tout ce que les familles pouvaient apporter comme information. Il est vrai que les bénévoles étaient totalement démunis, ils n'avaient aucune information relative à ce naufrage, mais ils ont très vite compris que l'ampleur du phénomène était assez extraordinaire d'une part, et d'autre part qu'il y avait peut-être en quelque sorte une carte à jouer dans le fait de commencer à collecter, et cela ils l'ont fait de façon tout à fait intuitive, à commencer à collecter les informations que pouvaient donner les familles concernant les personnes disparues. Cela a marqué les esprits des bénévoles et à partir de ce moment, une idée a commencé à émerger dans un coin de la tête de certains et de certaines de ces personnes. qui par ailleurs participait activement au moment des débarquements, donc sur le port de Catane, des vivants et des morts, pour faire ce que fait d'habitude la Croix-Rouge, c'est-à-dire distribuer des kits d'hygiène, assurer les premiers secours, et cela dans une ligne assez dense d'institutions qui, sur le port de Catane, assurent le traitement des personnes vivantes dans ce qui très vite va s'appeler un hotspot, donc un système d'enregistrement, de tri et de dispatch de personnes. Donc tout ça pour dire que les bénévoles de la Croix-Rouge avaient ce travail, donc ils étaient en lien direct avec les personnes qui débarquaient, et là tout d'un coup ils se voient aussi un peu submergés par des familles qui cherchent des proches probablement disparus dans ce naufrage. Cela marque les esprits parce que c'est ce qui va être au fondement d'une initiative qui, elle, va prendre forme 2 années plus tard, lorsque ils se disent de façon assez claire qu'il faut faire quelque chose pour ces morts qui débarquent sur le port de Catane, donc ces corps qui n'ont pas de nom, on ne sait pas qui sont ces personnes, qui débarquent sur le port et qui vont être enterrés dans le cimetière municipal. C'est en découvrant que pas grand-chose n'était fait à leur égard, c'est-à-dire que les corps étaient inspectés et ensuite inhumés, mais que personne ne s'occupait de l'identification de ces corps, donc aucune institution, ni au niveau national italien, ni au niveau européen, n'a parmi ses engagements ou ses activités celle d'identifier ces morts aux frontières. Et donc, ce groupe de bénévoles se dit, bah, là, il y a quelque chose à faire. Donc ça, c'est le point de départ de l'initiative, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. C'est vraiment une aventure d'engagement et puis ensuite qui va se transformer aussi en attachement que nous racontons dans le livre.
Alors, au sein donc du comité local de la Croix-Rouge, plusieurs personnes sont particulièrement au cœur de ce projet. Ce sont ces personnes que vous suivez de plus près, donc je peux citer leurs noms puisqu'ils sont mentionnés dans le livre. Sylvia Dicia, excusez-moi pour la prononciation, Ricardo Reitano, Davide Casella, Stefano Principato et Leila. Alors ce sont ces personnes-là desquelles vous êtes tous les deux les plus proches pour comprendre ce projet, pour sentir ce qu'ils font. Et comment est-ce que vous êtes en contact avec ces personnes justement? Racontez-nous.
Comment je suis rentré en contact des personnes, comment on est entré en contact avec ces personnes. Alors, il se veut que moi, je fais partie d'une organisation qui a participé à des activités sur une... disons, dans un projet qui s'appelait Boat for People, qui avait commencé à l'époque des printemps arabes. Donc déjà en 2011-2012, on avait commencé à s'y mobiliser. Et lors de ce naufrage du 18 avril 2015, on a décidé de travailler à une guide avec cette coalition. Une guide pour fournir aux personnes, aux familles des personnes disparues, donc des personnes concernées, des informations basiques pour leur donner les outils pour aller effectivement chercher leurs proches. Et en faisant ça, on s'est rendu avec un petit groupe on en parle brièvement dans le livre, un petit groupe des militants de cette organisation, on s'est rendu à Catania. Et à Catania, on a rencontré Sylvia notamment. La première personne qu'on a rencontrée, c'était Sylvia. Lors d'un débarquement, on a commencé à discuter. Ils nous ont un peu expliqué ce qu'ils étaient en train de faire et ce qu'ils avaient envie de faire, ce qu'ils pensaient faire par rapport à ça. Nous, on s'était occupé de cette... on était allé à Catania parce qu'à Catania, il y a eu l'enterrement d'un certain nombre de corps de ce naufrage. Et aussi parce que c'était les parquets de Catania qui étaient en charge du dossier. Donc on avait forcément cherché d'avoir des informations et de comprendre un peu plus. Et les deux, donc avec Sylvia, on s'est rendu compte que, effectivement, il fallait faire quelque chose de plus. Donc il y avait quelque chose de plus à faire. C'est ça, c'est un peu leur intuition. C'est que même si une famille arrivait à avoir, disons, l'information comme quoi la personne qu'ils cherchaient et qui était décédée en mer avait été enterrée à Catania, en se rendant à Catania ou en prenant contact avec les institutions de Catania, il n'y avait pas la possibilité de les en savoir plus. parce que même les dispositifs qui prenaient en charge les corps étaient un peu... ils n'étaient pas organisés. Il y avait une réaction un peu d'urgence vis-à-vis de cet événement. Donc, il y avait une gestion qui n'avait pas été rationalisée, disons ça. Donc, c'est à cause de ça qu'on a pris contact avec Sylvia et c'est elle qui nous a amené la première fois à voir ce cimetière de Catania, donc cet espace destiné au corps des personnes migrantes décédées, donc il quadrato migranti, comme on l'appelle. Et c'est là que l'idée de travailler sur ça de manière un peu plus proactive, etc., est venue, et que le comité, donc ces bénévoles, se sont mobilisés et du coup nous ont aussi sollicité pour qu'on discute avec eux d'une dimension pratico-pratique de travail. C'est-à-dire qu'il y a leur engagement en premier lieu, mais il y a aussi cette volonté de travailler, de rationaliser, donc vraiment faire un travail de construction de ce qu'on a décrit. Un peu une base de données pour pouvoir effectivement rassembler toutes les informations et permettre d'avoir des informations à donner aux familles qui viendraient chercher leurs proches.
Alors comment se passait concrètement, comment se passait leur travail de ces personnes-là une fois qu'ils sont en présence des corps morts? Donc le but étant bien sûr de les nommer, de donner une dignité avant de les inhumer, et puis d'essayer de contacter leur famille. Concrètement, comment elles faisaient?
J'y vais, Caroline. et comment il faisait? Alors, il faut dire une chose. C'est-à-dire que le projet a commencé quand il y a eu, disons, les corps qui arrivaient à Catane n'étaient pas beaucoup à l'époque où on a commencé à travailler avec eux et à les suivre à Catane. Et donc, le travail a été fait notamment de manière un peu rétrospective. C'est-à-dire que la partie principale du travail, c'était d'aller chercher auprès des institutions et disons, de différents acteurs engagés dans la gestion des corps, matériel des corps, des indices, des informations, des traces, pour pouvoir effectivement reconstituer des dossiers et reconstituer à travers plusieurs éléments une identité. Donc c'est plutôt ce travail rétrospectif qui a été fait à Catania, tout avec l'idée de développer une pratique d'action directe, immédiate, au moment où un corps arriverait encore à Catania. Et c'est ça qui est disons, la deuxième partie de ce travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus disponible, on est plus prêt pour identifier plus rapidement, donc aller chercher plus rapidement des informations et les relier pour que la personne soit identifiée avant d'être enterré, etc. Parce que, si vous voulez, ce qui a mobilisé le groupe de RFL de Catania, de Restoring Family Links, était l'idée de rassembler, aller chercher auprès de la police scientifique, plutôt que de la municipalité, plutôt que des services de cimetière, plutôt que des hôpitaux, toutes les informations qui avaient été collectées, mais de manière séparée, et les mettre ensemble. Et c'est ça qui nous a permis, et leur a permis, de retrouver les noms, et valider, disons, des identifications, donc permettre effectivement que les noms de la personne soient attribués de manière formelle.
Carolina Kobelinski, toujours dans le prolongement de la réponse de Philippe Ofuri, donc les personnes, quand elles travaillaient, donc vous leur posiez des questions sur leur quotidien, il y avait une relation régulière, vous demandiez aux personnes combien de familles ils ont pu constater. Racontez-nous comment ils vous communiquaient les informations sur ce qu'elles faisaient.
Bah, il se trouve que nous avons eu la chance de pouvoir suivre cette initiative depuis ses débuts. Ce qui veut dire que nous avons pu enquêter sur leurs propres enquêtes menées par rapport à tous les corps qui sont enterrés dans le cimetière municipal. Donc, nous avons suivi toutes les démarches qu'ils ont entamées pour ce qui est très vite devenu la construction d'une base de données qui, comme le disait Philippot, avait pour objectif de mettre ensemble toutes les informations existantes sur un même corps dans les différentes administrations ou institutions dépendantes de la municipalité de Catane et dépendantes aussi du judiciaire, puisque le comité de la Croix-Rouge avait réussi à obtenir des accords avec le judiciaire et la municipalité pour avoir un accès total à tous les documents correspondant à ces corps et aussi à tous les agents des différentes institutions qui avaient collecté les informations ou qui avaient rédigé ces documents. Donc nous, avec Philippe, ce qu'on a fait, c'était tout simplement accompagner, ou en tout cas dans un premier temps, accompagner Silvia, Ricardo, Davide dans les différentes institutions, dans le bureau de l'état civil, dans le siège, au siège de la police judiciaire, de la police scientifique, au cimetière, et nous les avons vus et par ailleurs on a aussi un petit peu contribué à collecter les informations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces personnes, donc Silvia, Ricardo, David, n'ont aucune compétence particulière en la matière. Ils n'avaient jamais fait ça, ils ne savaient pas très bien ce qu'il fallait faire. Donc, le projet était aussi, à chaque fois, rempli de tentatives de bien faire, mais tout en sachant que peut-être il allait falloir retourner dans le bureau de l'état civil ou dans celui de la police scientifique parce que toutes les informations n'avaient pas été prises ou parce qu'on n'avait pas compris le contenu d'un document. Et donc nous avons suivi toutes ces allers-retours dans les différentes institutions et donc toutes les conversations que cette petite équipe de la Croix-Rouge a commencé à entamer, disons, avec les agents des différentes institutions qui, pour la plupart, se sont très vite pliés à cette démarche et avec un très grand engagement. Beaucoup ont participé activement aux discussions qui avaient pour objectif de essayer de trouver des pistes qui pourraient éventuellement mener vers un nom et ensuite vers une famille. Et donc nous avons suivi ce travail et nous avons aussi passé beaucoup de temps avec les personnes de la Croix-Rouge dans leur réflexion autour des pistes possibles. Et les séjours à Catane s'enchaînant pour Filippo et moi, nous avons à un moment décidé aussi de amener nos interlocuteurs et interlocutrices à échanger avec nous sur d'autres choses que le projet de base de données en tant que tel. Et donc nous les avons invités à passer quelques jours ensemble à échanger de façon plus large sur leurs inspirations qui selon eux pourraient avoir un rapport avec leur engagement vis-à-vis du projet. C'est ainsi que nous avons passé quelques jours à écouter des morceaux de musique, à lire des poèmes, à lire des extraits d'un journal qu'avait tenu Ricardo, les écrits que nous avait fait parvenir Davide ou les audios que nous avait partagés Sylvia, qui disaient autre chose que ces pistes d'identification, mais qui nous permettaient, nous, de nous faire une idée du lien que ces personnes commençaient à tisser avec les morts, ces morts dont ils n'étaient pas affiliés, mais qui ils commençaient à côtoyer, ne serait-ce que par la lecture des documents les concernant, par les visites au cimetière, etc.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Toujours en compagnie de Carolina Kobylinski et Filippo Furi pour parler du livre Relier les rives sur les traces des morts en Méditerranée. Et vous avez aussi donc visité le cimetière où sont reçus, réunis ces corps. Parlez-nous de qu'est-ce que vous y avez vu, quelle était votre impression dominante en étant dans ce cimetière, Filippo.
Alors, comme je vous disais, la chose impressionnante dans ce cimetière, comme on l'avait vu d'ailleurs dans d'autres lieux, dans d'autres cimetières qu'on avait pu visiter en Grèce plutôt que dans d'autres villes italiennes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe et qui arrive aussi ailleurs qu'à Catania, c'est ça, c'est important à le rappeler, de le rappeler. Et ce qu'on a vu, c'est que l'espace qui était consacré à l'enterrement de ces personnes était un espace liminal, donc marginal dans les cimetières, et qui était soigné, mais de manière minimale, si vous voulez. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on a un peu réfléchi à comment travailler sur cette base de données dont parlait Carolina. C'est-à-dire que les informations concernant ces corps, et on reprend des images aussi de ces informations, étaient affichées de manière très minimale, vraiment. Mmh. Il y avait une date de décès. Et il y avait un code.
Il y a des photos dans le livre. Hein,
c'est ça. Donc il y avait un code qui était un code alphanumérique, qui est le code attribué au corps de la part des autorités, mais qui ne disait rien du plus. Mm. Donc les seules informations, quand on va dans un cimetière, on a tendance à imaginer de pouvoir retrouver les traitements classiques des corps veut qu'on ait une photo et qu'on ait des traces de la présence des textes et des dates de naissance et des dates de décès, etc. Mais que du coup, ça soit un renvoi à quelque chose qu'on connaît. Mmh. Alors que là, il y avait vraiment rien. Il y avait juste l'information concernant le décès et le fait que des informations concernant ce corps avaient été enregistrées quelque part et il fallait aller les chercher. Je reviens un peu sur ce que disait Carolina, qui a très bien expliqué la démarche. Mais je voulais dire juste peut-être un petit mot sur ce que c'est le RFL, c'est-à-dire le rétablissement de liens familiaux. Parce que, disons que la Croix-Rouge a un dispositif en général qui s'occupe...
Une précision, Philippe, non. RFL, c'est Restoring Family Links.
Restoring Family Links, donc rétablissement des liens familiaux. Et c'est quelque chose qui a été pensé, disons que c'est un dispositif historique au sein de la Croix-Rouge et qui était pensé et appliqué dans les cadres de la migration par le comité de Catania et par d'autres comités pour remédier, pour répondre à des séparations de personnes et dans les cas où le mari et la femme ou l'enfant et la mère soient séparés lors d'un débarquement, un est débarqué à Catania, l'autre est débarqué dans une autre ville ou dans un autre pays, il faut relier les deux personnes. Donc ça, c'était un dispositif qui s'occupait d'abord de ça. Mmh. Et dans cette idée, le comité de Catania avait fait des accords avec aussi les tribunaux, etc., pour pouvoir accéder aux prisons. Parce qu'on sait que des fois, les personnes sont détenues et donc ils n'ont pas la possibilité de se mettre en relation à leurs proches. Donc c'était dans cette idée-là que les dispositifs avaient commencé à travailler sur la question des personnes migrantes qui débarquaient dans la ville de Catania. Et dans les rencontres, dans les discussions, l'évidence a été il y a une autre dimension du rétablissement des liens familiaux, c'est-à-dire celui entre des familles qui cherchent des personnes décédées et leurs proches décédés. Donc c'est un peu ça, disons, l'originalité de ce travail et cette dimension un peu visionnaire, un peu utopique, non, de dire on va chercher les familles de quelqu'un et on va aider à rétablir un lien familial entre ces deux pôles qui n'étaient pas pris en charge, disons, de manière structurée par le dispositif auparavant. En revenant à la vision et au constat que le cimetière nous présentait, c'est à ce moment-là qu'on a dit, que notamment eux, ils se sont dit, il faut faire quelque chose, il faut trouver les informations, il faut aller plus loin, il faut permettre que les personnes, que les noms des personnes soient, si possible, affichés, c'est-à-dire qu'on arrive à les trouver, qu'on arrive à les nommer, pour plusieurs raisons. une raison qui est la raison, et on revient un peu quand Carolina disait les sentiments, les émotions et les raisons pour lesquelles ces personnes se sont mobilisées. Donc il y a une dimension de dignité humaine et de respect de la dignité humaine et donc un investissement à ce niveau-là. Mais il y a aussi une dimension pratique, c'est-à-dire que arriver à formaliser une identification d'une personne permet aussi que le certificat de décès soit émis, et donc ça permet aussi que la famille de cette personne puisse à la fois engager, donc terminer un processus de deuil qui sinon reste un peu suspendu, mais aussi qu'elle ait des réponses pratiques administratives concernant cette. Donc il y a vraiment plusieurs dimensions qui les ont poussés à s'investir dans ces projets.
Alors, en page 79 du livre, vous indiquez donc qu'Attane, ville frontière, est reconnue comme un acteur politique engagé dans le traitement de la migration. Effectivement, vous nous disiez que ce type d'action existe ailleurs. Et vous soulignez donc, il y a un élément qui m'a intéressé, vous soulignez que la religion catholique est omniprésente en Sicile et marque clairement le paysage urbain catanais. Vous rappelez également que la ville compte environ 150 églises catholiques. Cette réalité a-t-elle, d'après vous, une influence sur la manière dont sont perçus et traités les hommes et les femmes migrants, Carolina Komulinski? Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver un lien entre la religiosité du lieu et le traitement, ou bien il n'y en a pas?
Vous posez une question que nous avons posée de façon très explicite une fois l'enquête que nous avons conduite avec Filippo très avancée. Nous avons posé cette question à nos interlocuteurs principaux, donc à Sylvie, Ricardo, Davide. Et je me souviens leur avoir dit, mais vous savez, quand je raconte un peu votre initiative à Paris, et j'en parle aux collègues et à des amis, tout le monde me demande quel est le lien avec le catholicisme et avec la religion, quelle est la part de la religion dans tout ça. Et tous les trois ont été très très étonnés et ils m'ont dit mais pas du tout. Sauf que la conversation avançant, ils étaient tous d'accord pour dire que il y avait une part de religiosité ou de respect de la religion dans leur volonté de témoigner du respect à l'égard de ces corps seulement. Chacun s'est mis à parler lors de cette conversation de son propre rapport à la religion. Aucune de ces personnes n'est particulièrement pratiquante, mais toutes et tous ont un lien avec la religion et tous estiment que le devoir de respecter les morts ne peut pas se comprendre sans un attachement religieux quel qu'il soit.
Alors je vous propose donc de faire une pause musicale et on reprend notre entretien avec vous. Je rappelle donc le titre du livre Relier les rives sur les traces des morts en Méditerranée, publié aux éditions La Découverte, avec vous donc écrit par vous, nos deux invités Filippo Furi et Carolina Komulinski. À tout de suite. Thank you. morceau signé John Zorn et le quartet Masada. Le titre du morceau, Taris. Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1. Dans version originale, je reçois Carolina Kobylinski et Filippo Furi qui publient Relier les rives aux éditions La Découverte. Filippo Furi, vous souhaitez apporter une précision liée à la question précédente sur l'aspect religieux de ce lieu. C'est le monument qui, on va dire un monument dédié aux migrants qui existe au sein de ce cimetière.
Oui, quand on parlait tout à l'heure du cimetière et je me suis un peu focalisé sur l'espace, sur cet espace qui a un peu suscité provoqué un peu la mobilisation dont on parle dans les livres. Mais effectivement, il y a aussi un monument qui est tout près et qui, de manière un peu plus visible, parle de cette situation, raconte, c'est un monument construit et qui accueille les premiers corps qui ont été débarqués dans la ville de la Catane, c'est-à-dire que les corps, il y avait déjà eu des cas, si vous voulez, mais il n'y avait pas eu une mobilisation systématique comme après le naufrage du 18 avril. Je dis ça parce que le monument, c'est quelque chose qui va avec une série de cérémonies publiques. Donc la mairie, la municipalité s'était engagée pour célébrer, pour organiser des célébrations en mémoire de ces personnes et avait organisé des cérémonies interreligieuses, c'est-à-dire qu'il y avait quand même cette dimension, de cette volonté de mobiliser un peu la citoyenneté, d'en rendre public l'événement. C'était des événements qui ont eu lieu dans la mairie. Donc le monument prend aussi un espace plutôt central dans le cimetière, alors que le carré migrant est un peu plus excentré, dans l'écart. Le monument, on le voit plus. J'ai dit ça parce que il y a plusieurs niveaux. Donc il y a cette dimension un peu de la ville, la ville en soi, donc son histoire, sa dimension architecturale et culturelle qui est témoignée aussi du nombre important d'églises, etc. Donc il y a cette dimension publique et à côté il y a cette dimension privée intime. Donc il y a les deux registres se sont un peu croisés dans notre travail et Caroline a raconté la dimension plus intime des personnes avec qui on a travaillé, mais c'est vrai que tout cette dimension intime prend place et se développe dans un cadre assez connoté qui est le cadre de la ville de Catane et de la Sicile en général.
Le livre est structuré donc en 5 chapitres, naufrage, hommage, mobilisation, identification et hospitalité. Entre les différents chapitres, vous intercalez donc ce que vous appelez des interludes qui suspendent un peu le récit et nous conduisent vers des réflexions plus larges sur la politique, le pouvoir et la violence. Je m'arrête un peu sur celui qui suit le premier chapitre et qui a pour titre « Une société anesthésiée ». Carolina Kobylinski, qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous entendez par société anesthésiée ?
Avec la société anesthésiée, nous faisons référence à l'indifférence autour, l'indifférence assez généralisée, autour des morts fréquentes aux portes de l'Europe. Dont on entend parler lorsqu'il y a des grands naufrages, mais dont la réalité quotidienne, si elle est évoquée dans les médias mainstream, elle ne suscite que très, très peu de réactions. Et on peut faire l'hypothèse que les gens en général, la société civile, connaît l'existence, sait de l'existence des décès et des disparitions aux frontières, en route pour l'Europe, l'exposition à ces malheurs érode en quelque sorte la capacité de s'émouvoir. Et c'est dans ce sens que nous parlons d'une certaine anesthésie qui ne pousse pas la société civile, en termes généraux encore une fois, à s'engager des façons explicites pour ne serait-ce que rendre hommage ou penser autrement ou contester les politiques qui exposent les personnes migrantes à la mort au cours de la traversée.
Filippo Furi, parce que là aussi, j'aimerais avoir votre avis également. On est quand on voit ce que vous relatez là, vous l'avez bien dit, c'est pas le seul endroit dans le monde, heureusement, où ça se passe, heureusement. En même temps, on a l'impression que ça vient à l'encontre de certaines politiques publiques. Quand on voit ce qui se passe en Italie, la montée de l'extrême droite, les différents gouvernants qui sont aujourd'hui en Italie, cette action-là semble vraiment être à l'encontre de l'atmosphère générale. Quelle est votre réflexion là-dessus ?
Totalement, mais c'est vrai en Italie, c'est vrai en Grèce, c'est vrai un peu partout.
Bien sûr,
d'ailleurs,
oui.
je tiens à rappeler que il y a un an, il y a eu un naufrage qui a eu en Grèce, à Pylos, en face de Pylos, où ont perdu la vie plusieurs centaines de personnes. Et c'était un peu à ce moment-là qu'avec Caroline, on a commencé effectivement à se confronter à cette idée de anesthésie et d'indifférence face à ça. La dimension publique, médiatique, est quelque chose qui a banalisé un peu ces événements. Donc il y a à la fois la façon dont on en parle, c'est-à-dire que il y a cette dimension de discours médiatique qui s'intéresse à des événements que quand ça peut faire la une, parce que c'est quelque chose que c'est important, c'est gros, hein. Mais sinon le ce qu'on perd, c'est la réalité de tous les jours. Et ce qui est important dans le travail qu'on a fait à Catania et que plein d'autres personnes font ailleurs, ça c'est ce qui est important à dire aussi, c'est le travail jour après jour et une réponse locale à chaque événement et à chaque décès, etc. Donc c'est vraiment un travail des fourmis derrière, non ? Et pas que une mobilisation ponctuelle parce qu'il y a un gros naufrage dont on peut parler dans les médias. Donc ça, c'est une dimension de discours. Mais il y a aussi une dimension des politiques, et ça c'est quelque chose qui conditionne aussi les discours médiatiques, non, mais qui part d'un positionnement qui est le positionnement des différents pays européens comme de l'Union européenne en soi, qui est basé sur l'idée qu'il faut, protéger les frontières européennes à tout prix et que la migration est présentée comme un risque, comme un danger. Bon, et on voit ça dans la réalité française aujourd'hui. C'est un peu le discours dominant en Italie depuis un certain nombre d'années. Et donc la solution que l'Union européenne et les États membres ont mis en place, mais c'est un processus qui a commencé il y a bientôt 30 ans, donc c'est quelque chose qui s'empire de plus en plus, mais c'est un processus qui est déjà vieux, disons, mais ça s'intensifie, c'est l'idée de renforcer le contrôle des frontières. Donc si on parle de l'agence Frontex qui est destinée à contrôler les frontières européennes et à défendre les frontières européennes, donc il suffit de voir le budget qui est déployé et qui ne cesse d'augmenter pour justifier une militarisation des frontières. Et il y a une politique d'externalisation de contrôle, etc., qui fait en sorte que ce contrôle s'éloigne aussi, et ça devient de moins en moins visible, c'est-à-dire la création de la zone, de la search and rescue zone, de la SAR zone libyenne est un exemple, mais tout l'argent aussi qui a été donné à la Turquie et à d'autres pays pour qu'ils fassent le sale travail, c'est-à-dire qu'ils bloquent les personnes à migration et à mouvement en dehors du territoire européen. Donc il y a vraiment ça qui est quelque chose que on a du mal à voir parce qu'on est un peu concentré sur notre propre nombril, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Et c'est toujours un peu compliqué de raconter ça et de montrer ça, de mettre en évidence cette dynamique. Mais je vous donne un exemple qui est un peu un complément par rapport à notre travail. C'est-à-dire qu'à partir de 2018-2019, les nombres des corps, par exemple, qui sont arrivés en Italie, a diminué beaucoup. a diminué beaucoup, non pas parce qu'il y a moins de personnes qui décèdent en mer, mais parce que grâce à cette intensification et externalisation des contrôles, ben, les morts se passent ailleurs. Les gens meurent avant. Et ce n'est pas un hasard que en Tunisie, ben, notamment, il y ait des centaines de corps qui sont retrouvés sur les plages, etc. Et que du coup, à ce moment, on est dans une deuxième phase où avant les corps arrivaient en Europe, aujourd'hui, les corps des personnes décédées n'arrivent même pas en Europe parce qu'on ne veut pas les voir. Et on revient à la question de l'anesthésie et de l'indifférence et de l'invisibilisation du phénomène.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon-Émile.
Carolina Kobelinski, est-ce que, à la suite de ce que vient de dire Philippe Ofuri, est-ce qu'on peut parler d'une tentative de criminalisation de la solidarité? Est-ce que le terme est trop fort ou...
Non, il est absolument pas fort et c'est un point important parce que la petite équipe que nous avons suivie dans cette démarche assez singulière, elle déploie ce projet dans le cadre dans un environnement politique où les soutiens aux personnes migrantes sont montrés du doigt par le gouvernement italien et plus largement, bien sûr. Et c'est un moment où toute personne aidant ou facilitant, c'est les termes officiels, l'immigration irrégulière est susceptible de passer en justice. Et c'est un moment dans lequel aussi, un petit peu plus tard, finalement, Matteo Salvini va décréter l'arrêt de cette politique qui permet de faire accoster les bateaux sur les ports du sud de l'Italie et va commencer de façon de plus en plus claire, voire même systématique, cette politique et cette pratique qui est actuellement en cours, qui est celle de déterminer des ports pour l'accostage des bateaux des ONG qui font du sauvetage en mer, très loin des lieux où elles font ces sauvetages. C'est-à-dire qu'on va leur attribuer, par exemple, un port dans le nord de l'Italie, alors que, bien sûr, ils sont tout près de la Sicile. Ces pratiques, elles visent d'une part à notamment même à décourager ce travail de sauvetage, à les dissuader de le faire. Elle coûte beaucoup d'argent pour les ONG et elle s'accompagne d'un discours voire presque diffamation par rapport à ses soutiens en mer. Et dans ce cadre-là, on est dans cet esprit-là, lorsque les personnes que nous avons suivies à Catane réussissent de façon assez incroyable à rallier autour de la question du traitement et du respect, puisque c'est le terme habituellement employé, du respect pour les morts, des institutions publiques et un certain nombre d'acteurs qui, par ailleurs, ne sont pas particulièrement, pour le dire assez bêtement, ne sont pas particulièrement favorables à la migration et qui pourtant vont s'engager dans cette démarche qui a la particularité de en quelque sorte se déconnecter, enfin elle paraît un peu à côté de tout ce qui est dit et ce qui est fait en termes de criminalisation de la solidarité à l'égard des personnes migrantes.
Alors, bien sûr, comme disait Michel Foucault, tout pouvoir est en quelque sorte physique. Mais là, c'est intéressant puisqu'on parle de corps. Et quand on lit le livre, on constate qu'il y a une différence de traitement entre les corps morts et les corps vivants. Bon, ça, c'est un constat. Et là encore, donc, il s'agit bien, vous, ce que vous décrivez, c'est une action de résistance. Est-ce que, justement, face à ce qui m'amène un peu à l'actualité d'aujourd'hui en France, cette action de résistance, bien sûr, que vous décrivez à Catane et que vous l'avez dit qui se passe aussi ailleurs, à la lumière de cette expérience, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la situation en France avec cette menace du Front National qui peut obtenir la majorité aujourd'hui en France à l'Assemblée nationale, Philippot?
Alors...
comment vous vivez ça? Alors, il y a l'anthropologue que vous êtes, il y a également votre présence en France depuis quelques années maintenant.
Totalement. Alors, juste pour vous pallier des corps, justement, je trouve que avant de rentrer dans ça, mais ça me permet de rentrer dans cette. D'essayer de vous répondre de manière un peu plus articulée. Les corps qui sont à Catane, de personnes décédées, reste à Catane. Donc, en gros, la mobilisation et la solidarité qui se met en place, mais vraiment cette dimension de résistance aussi, c'est pour faire une place à ces corps et les faire entrer dans la ville.
Dans l'espace de Catane, mais l'espace européen.
Dans l'espace local et dans l'espace européen. C'est-à-dire de leur donner une dignité et les reconnaître comme êtres vivants accueillis dans cet espace. Non? Donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui a déstabilisé un peu la narration. Et c'est pour ça que Caroline justement disait des villes qui ne sont pas, ou des administrations qui ne sont pas forcément pro-migration, se trouvent à accepter cette présence. Et donc, cette présence habite la ville. Donc, c'est une façon de montrer que les personnes qui transitent, qui arrivent d'ailleurs, et notamment les personnes décédées sur lesquelles on a travaillé, vont habiter, leur présence habite la ville, a un impact direct avec toutes les personnes qui rentrent en lien avec ces histoires et ces corps. Donc, ça pour dire que la dimension de la migration, de la mobilité est toujours l'idée de vouloir les arrêter avant, c'est un peu parce que de manière générale, et là je rentre dans des discours un peu anthropologiques, sociologiques, généraux, Carolina va me corriger, mais c'est que les personnes vivantes qui arrivent sont perçus, voilà, comme on le disait tout à l'heure, comme une menace, comme un vecteur des problèmes. Des problèmes pendant les Covid, c'était les migrants qui ramenaient le Covid, alors qu'on sait très bien que c'était pas ça la question, etc., etc. Ils déstabilisent l'économie, etc. Donc il y a cette dimension d'une certaine manière de peur, je crois, qui est liée à d'autres raisons, mais qui est, disons, transformée et racontée pour montrer que ça, c'est pour nous dire que ce seraient les personnes, les étrangers, hein, qui viendraient déstabiliser notre espace et qui seraient eux la cause de tous les problèmes qu'on se retrouve à vivre. Et que du coup derrière ça, alors c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en France, mais je vous parle plutôt comme un Italien qui a déjà vécu ça, même si à distance par rapport à l'Italie, les discours c'est un repli identitaire, donc l'idée de s'inventer une identité italienne, par exemple, autochtone, qui devrait être protégée à tout prix par rapport à cette danger d'invasion, etc., et qui est totalement, qui est démographiquement pas correct, et donc est fausse au niveau démographique, et est fausse au niveau sociologique, etc., etc. Mais on a du mal, si vous voulez, à contrer cet argument de manière rationnelle et de manière dialectique, parce que les sentiments sur lesquels on construit la propagande un peu des droites européennes aujourd'hui, c'est basé sur la peur, et il n'y a pas plus dangereux et menaçant que quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc un étranger. L'idée de les rencontrer, de créer des liens, d'où la question aussi de l'accueil au niveau local, dans la relation qu'on peut créer avec des personnes qui sont en transit ou qui arrivent pour s'installer, ben c'est quelque chose qui est un antidote à cette peur. Dans la rencontre, ça reste un antidote par rapport à cette idée de danger qui vient de l'extérieur.
Carolina Koblinski, par rapport justement à cette expérience très forte que vous avez vécue et qui est relatée dans le livre. Quel regard portez-vous sur la situation aujourd'hui en France, qui nous inquiète tous ?
Je ne peux que être inquiète. On n'a pas besoin d'être un grand savon pour imaginer que l'objectif en matière d'immigration d'un gouvernement de Front National irait dans la ligne de ce que au niveau européen essaye déjà de mettre en place Giorgia Meloni en Italie. Et donc on a eu ces derniers jours des nouvelles sur les accords passés avec l'Égypte, avec la Tunisie, pour, comme le disait Filippo, externaliser davantage le traitement migratoire et faire en sorte que les personnes ne rentrent pas sur le territoire européen. On sait que cette politique est aussi celle que aimerait mener à bien le Front National, et j'ai cru lire quelque part que Meloni était déjà en train de articuler des nouveaux projets en ce sens avec l'extrême droite française si elle arrivait au pouvoir. Et cela d'une part, et d'autre part, la théorie, enfin disons le grand remplacement dans un certain nombre, pour ne pas dire tous, les membres du Rassemblement National sont friands, ne pourrait que mettre en danger la possibilité d'une vie digne, ou d'une vie, ne serait-ce que d'une vie en Europe, des personnes migrantes, et qui mettrait encore plus en danger les vies de celles et ceux qui sont les autorisations des différents États européens pour entrer, disons, pour arriver de ce côté. De ce côté-là de la frontière, serait encore plus exposé à la mort.
Vous évoquez dans le livre, dans la partie intitulée « Art et deuil public », vous évoquez donc les artistes et les créations artistiques qui se sont intéressées aux migrants morts aux frontières, par exemple le chinois Ai Weiwei, Jean-Franco Rossi, le français Pierre de la Vie, pour ne citer que cela. Et vous racontez qu'à une biennale d'art de Venise, la monumentale épave du chalutier naufragé dans la nuit du 18 avril 2015, dont vous parlez dans le livre, était exposé à cette exposition. Et l'un des survivants du naufrage, donc vous le nommez donc Sidi Traoré, a visité cette exposition et a vu le chalutier. Vous étiez à ses côtés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour finir sur cette note qui est quand même belle.
Moi, je trouve que cette expérience, qui était un peu collatérale un peu au travail qu'on a fait à Catane, mais pas tellement, parce que c'était quand même relié, tout étant connecté, notamment sur disons, l'historique de ces bateaux et de cet événement. Comment dire ? Ce qui s'est passé, c'est que, comme on disait tout à l'heure, il y a 28 survivants de ce naufrage. Et ces 28 survivants, face à un nombre de morts qui n'a pas encore été établi de manière certe, mais que oscille entre les 750 et les 1000 personnes, donc quelque chose d'énorme. Ces personnes n'ont jamais été, ils ont très brièvement été entendues par les parquets, donc les enquêteurs, au moment du naufrage, pour essayer de déterminer qui étaient les responsables, qui étaient les pilotes du bateau, pour pouvoir l'inculper, pour pouvoir déterminer les charges contre lui, et qu'après, ils ont été abandonnés et pas écoutés par personne, disons, et pendant des années. Moi, je suis rentré en contact avec lui pendant un travail que je menais avec le comité international de la Croix-Rouge qui travaillait sur ce naufrage pour essayer de reconstituer une liste des personnes, des victimes à bord. Et donc, on a commencé à reprendre ces dossiers avec lui. Et à l'époque de l'exposition, c'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit « C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ce bateau ? Pourquoi ?» et qui m'a demandé de l'accompagner voir le bateau. J'essaie de comment dire, l'expérience pour moi était une expérience clé pour quelque chose en particulier. C'est-à-dire que les survivants ont été, comme je disais, exclus de tout dialogue. Ils ont été éliminés un peu du panorama autour de ce bateau qui, à Venise, s'est présenté comme une coquille vide. D'ailleurs, sans information, etc. Donc, le fait qu'il ait voulu retourner voir cette épave, c'était une façon de se remettre, lui, à l'intérieur de la scène, du scénario, de l'histoire. Donc, revendiquer son histoire, revendiquer aussi l'histoire des personnes qui étaient avec lui, des survivants comme des personnes décédées. Donc, de se réapproprier de quelque chose, même quand on disait la narration, donc se réapproprier aussi de la narration de cet événement. Et moi, donc on est arrivé, on a retrouvé cet objet. Et ce qui m'a moi particulièrement touché, c'est que à un moment donné, en entendant deux Français qui étaient en visite à la Biennale, donc des personnes qui vont visiter cet espace artistique et qui s'y questionnaient sur qu'est-ce que c'est ce bateau, est-ce que c'est... il s'est approché en parlant français, il leur a dit, vous savez, moi j'étais sur ce bateau. Et c'était un choc. Les deux personnes sont restées complètement sidérées, tétanisées face à la réalité qui les a rattrapées, face à une exposition, donc d'un objet qui n'avait pas de vie. Donc, retrouver la vie, qu'il ait voulu ramener la vie, sa vie, dans cette narration, c'était énorme.
Merci beaucoup, Philippe Offiré. On est obligé donc de s'arrêter. Merci à vous, Karolina Kobylinski, qui était donc au téléphone avec nous.
Merci beaucoup.
Et donc, je rappelle donc le titre de votre livre, « Relier les rives sur les traces des morts en Méditerranée », publié aux éditions La Découverte. Je me laisse le temps de remercier Armand Gury qui était à la technique. Dans un instant, Dance Like a Vibe, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Aligre FM 93.1. Bon week-end, bonne soirée, à bientôt.
Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.